Donc, merci d'avoir répondu nombreux à cette troisième conférence que nous co-organisons la Fédération française des espaces de rencontre enfants-parents et l'IFRAS sur des thèmes de parentalité. Donc, je m'appelle Emmanuelle Morael et je suis responsable de ces deux formations universitaires sur la parentalité, deux formations longues qu'on met en place depuis 2024 à Toulouse. Dans un partenariat entre l'Université d'Angers, qui est responsable des titres, nous à Toulouse, et qui sommes accueillis dans les locaux d'Inkipit, on y était toute la journée aujourd'hui, et pour Lyon, c'est une autre fédération française, la FCCC, qui porte une des deux formations. Ces formations, pour celles qui ne le savent pas, nous, en tant que fédération d'intérêt général, on représente le dispositif lieu d'accueil enfants-parents pour respecter la Convention des droits de l'enfant. On a voulu ces formations parce que on considère que le soutien à la parentalité est aussi l'enjeu majeur des espaces de rencontre enfants-parents. Et que ces lieux sont complètement méconnus. C'est vrai que c'est des petits temps de travail. Il y a une pénurie de travailleurs sociaux dans ces lieux. Et donc, on a réfléchi en 2020, on était juste au moment du confinement, et on se disait, mais comment faire aussi pour sortir ces lieux de l'invisibilité en restant dans ce qui nous paraît important, c'est-à-dire travailler à la construction psychique des enfants et adolescents et travailler au soutien et à l'accompagnement des parents. Et donc, on a fait ce petit saut de dire, mais oui, il faut peut-être développer des formations longues. Il y en a très peu en France et quasiment aucune en Occitanie. Il y a Nîmes, mais qui n'ouvre pas l'année prochaine. Donc, c'est comme ça que la Fédération française, qui est une petite fédération en termes de nombre de personnes, s'est engagée dans ce projet parentalité. Pour faire connaître aussi le travail qui est mené, et comme avec l'IFRAS, on se connaît depuis très longtemps, on a eu l'idée de proposer trois conférences. Cette troisième conférence, elle porte sur un sujet qui, pour beaucoup de lieux, est assez essentiel, c'est la question de l'interculturalité. En espace de rencontre, Cynthia, puisque tu as accepté de venir travailler sur ce sujet, c'est un de tes sujets, mais en espace de rencontre, les questions bi-multiculturelles, les questions de parents qui ne parlent pas la langue, que les professionnels vont parler. Les questions des codes aussi viennent parfois même empêcher les rencontres. Parce qu'en tant que professionnel, on peut être en difficulté de savoir où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on laisse faire. Donc voilà, donc cette question interculturelle, on ouvre une fenêtre avec toi aujourd'hui. Donc on s'est mis d'accord sur le format que tu viendrais nous aider à réfléchir pendant 1 heure de conférence et qu'après, on proposerait une demi-heure après de débat. Et voilà. Et après, Cynthia est également formatrice dans le diplôme universitaire accompagnement à la parentalité, dans lequel il y a un temps spécifique, une journée qui est consacrée à ce sujet interculturel. Voilà. Merci. Je te laisse te présenter.
Merci. Bonjour, bonsoir. Moi, je suis Cynthia Veller, je suis psychologue clinicienne interculturelle. Je suis aussi formatrice. Je travaille en crèche, je fais de la formation initiale pour les étudiants, étudiantes, et de la formation continue aussi dans différentes institutions. Cette question de la culture et du devenir parent, c'est une question qui m'anime depuis plus de 10 ans. Étudiante, j'étais portée sur ces questions. J'ai eu la chance de travailler avec le docteur Claire Mestre à Bordeaux, donc sur des consultations transculturelles, qui m'a fait découvrir ce monde des consultations collectives ethnopsychiatriques. Voilà, et puis ensuite, j'ai poursuivi mes recherches et ma clinique. J'ai travaillé en pédopsychiatrie, dans différentes institutions, en l'AEP, et donc aujourd'hui, je suis en cabinet de consultation libérale. mais voilà, avec tout le volet formation à côté. Donc je suis ravie de partager avec vous cette réflexion sur la question de l'interculturalité, qui est une grande question. Souvent, on entend par interculturel la question de la culture ethnique, en fait, mais la question interculturelle, elle n'est pas que en lien avec la question ethnique, elle est aussi en lien avec une culture professionnelle, une culture familiale, une culture transgénérationnelle. Voilà, donc elle est très très vaste, cette notion de culture. L'identité, c'est une notion importante déjà quand on devient parent. On a l'identité qui est complètement bouleversée, hein, qui va être amplifiée. On va dire qu'on va intégrer en soi une nouvelle identité dans la parentalité. Et puis l'identité, c'est aussi une notion importante parce qu'on va voir qu'elle est extrêmement reliée à la notion de culture. On ne peut pas parler de culture sans parler d'identité, selon moi, et on ne peut pas parler d'identité sans parler de culture. Alors, simplement, peut-être se mettre d'accord sur la définition de l'identité. Donc, c'est un sentiment d'exister, on pourrait dire ça. Hein, que c'est voilà, l'impression qu'on peut avoir avec soi-même d'avoir une certaine cohérence, hein, avec soi-même. Voilà, on pourrait dire ça. L'important aussi sur la notion d'identité, c'est que c'est un processus. L'identité, c'est quelque chose qui va se créer, se métamorphoser tout au long de sa vie. Donc, elle est en cours de construction jusqu'au dernier souffle, je dirais. Un peu, on va voir que la culture aussi, elle est modifiable tout au long de sa vie aussi. Une notion importante aussi par rapport à cette identité, c'est la question de l'identification. Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que l'identité, elle se construit à travers les rencontres, à travers un autre. Alors au départ, quand le bébé, il naît, on va en parler un peu après, il est en contact tout de suite, hein, avec de l'altérité, avec ses parents, avec un environnement. Et petit à petit, en grandissant, l'enfant, il va intégrer des choses de l'autre, hein, c'est ça le processus d'identification, et il va faire sien certains éléments de l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi d'essentiel, de comprendre qu'on est toujours en lien les uns avec les autres tout au long de sa vie, et on intègre, hein, il y a un mouvement vraiment de l'extérieur vers l'intérieur, hein, voilà, en soi, qui va ensuite ben, créer des éléments de sa propre identité. Voilà, donc par exemple, on le verra après, mais c'est vraiment cette idée que de garder que voilà, l'autre, hein, est un élément primordial, hein, dans la construction de son identité. Donc voilà, ces deux notions, culture et identité, sont indissociables. Et on va voir que c'est aussi à travers les autres, hein, qu'on va intégrer des éléments culturels, qu'on va créer sa propre culture. Voilà, bon, c'était un petit rappel, j'ai pas envie de trop vous assommer avec cette notion d'identité, mais je ne peux pas ne pas en parler quand on parle d'interculturel. Alors peut-être certains connaissent ce schéma pour introduire la notion de culture. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une métaphore en fait, hein, de cette notion de culture. Donc on a un iceberg, et quand on regarde finalement la partie submergée de l'iceberg, c'est ce qu'on peut voir en perception immédiate, hein, des éléments culturels de l'autre. D'accord. Donc bien souvent, rapidement, on va s'arrêter à la question, par exemple, culinaire, la question musicale, la question du folklore, des vêtements. Hein, tout ça, c'est ce qu'on va très vite voir, hein, chez l'autre, dans potentiellement son appartenance culturelle. Ce qui peut amener après à plein de dérives, hein, mais au départ, voilà, c'est notre perception immédiate qui va faire que, bah, voilà, on va catégoriser, hein, dans un premier temps, on va essayer de, voilà, de chercher des repères aussi, hein, qu'on peut avoir pour voilà, chercher l'appartenance culturelle de l'autre. Et puis, en fait, on a, finalement, c'est la plus grande partie des éléments culturels, et bien souvent, ça, on passe à côté de ça, on a toute la partie submergée. Oui, voilà, de l'iceberg, qui échappe en fait bien souvent à notre perception immédiate. Et pour rencontrer cette deuxième partie, bah, il faut du temps. en fait, hein. Il faut prendre le temps, il faut se parler, il faut se rencontrer. Voilà, et il faut vraiment écouter aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette grande partie? Ben, finalement, c'est tout ce qui va être de l'ordre, par exemple, de pourquoi est-ce que dans une culture, on va porter les bébés de telle manière? Pourquoi est-ce que, comment est-ce que dans une certaine culture, on conçoit le rôle de la femme, le rôle de l'homme? Hein, tout ça, c'est la culture qui nous donne des réponses. Voilà, nos manières de nous regarder, nos manières de nous parler. Ça peut être aussi, voilà, comment est-ce qu'on conçoit dans ma culture d'appartenance, qu'est-ce que c'est être un bon père, entre guillemets, qu'est-ce que c'est être une bonne mère? Voilà, donc c'est simplement pour finalement se rendre compte que la deuxième partie, c'est finalement le cœur, hein, des valeurs de la culture donnée, des valeurs, mais aussi des codes. Voilà. Et parfois, cette partie-là nous échappe, hein, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça prend du temps. Hein, voilà. Et qu'en fonction des contextes aussi de travail, en fonction de nos institutions, en fonction de nos missions, on n'a pas toujours les moyens de creuser et d'aller voir en deçà. Alors, la culture, c'est un élément qui est extrêmement dynamique. Hein, la culture, elle n'est pas figée. La culture, elle est vraiment, vraiment variable. Hein, elle se modifie tout le temps. Hein. La culture, elle est transmissible, bien sûr. Hein, voilà. Alors, un élément qui me semble important quand on parle notamment de la question du devenir parent, c'est cette notion d'enculturation. Je ne sais pas si c'est une notion qui parle à tout le monde. L'enculturation, en fait, c'est le processus par lequel l'enfant va intégrer sa culture. D'accord? Donc, on pourrait dire que c'est même, c'est couplé à la socialisation, mais ça, c'est même en deçà, en fait. L'enculturation, elle arrive même avant la naissance de l'enfant, hein, quand les parents déjà voilà, se projettent dans l'envie d'avoir un enfant peut-être, ou pendant la grossesse, parce que déjà dans ce qu'ils se racontent en fait de ce bébé, hein, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il était avant d'arriver, voilà, tout ça, c'est la culture qui va répondre à toutes ces questions. Et déjà, c'est une manière de le placer, hein, déjà dans un espace-temps, dans un espace psychique, et qui vraiment prend racine dans la culture parentale. Donc cette enculturation, en fait, c'est un peu comme vous connaissez tous Obélix. Bah, Obélix, il a été trempé dans une marmite, hein, puis toute sa vie, il a été coloré de cette force surhumaine. Et ben pour moi, l'enculturation, c'est un peu ça, c'est-à-dire que chacun de nous, hein, on a été baigné dans un bain culturel qui nous a coloré, et ensuite, ben on va en faire quelque chose de cette couleur ou de ces couleurs. Mais vraiment, voilà, il faut prendre en compte ce moment-là d'immersion dans ce bain, hein, qui va ensuite nous colorer, ben, pour tout le reste de notre vie. Alors, la culture, on peut aussi dire que c'est un réseau de sens. Pourquoi? Ben, je l'ai un peu dit, c'est parce que c'est la culture qui va amener plein de réponses. Hein, plein de réponses très profondes dans nos comportements, dans nos valeurs, dans nos codes, dans nos religions. Voilà, c'est la culture qui vraiment vient faire ce réseau de sens et porter finalement, donner des repères aussi, hein, tout au long de sa vie, dans les choix parfois, dans nos postures, voilà, dans nos décisions. En fait, on ne se rend pas compte, mais on est énormément influencé par nos cultures. Alors, la culture, on peut aussi dire que c'est un peu comme un filtre. Hein, souvent avec les étudiants, moi j'aime bien leur proposer cet exercice, ou en formation aussi, je demande aux gens d'enlever leurs lunettes. Et puis je leur demande, pour ceux qui n'en ont pas, de prendre les lunettes des voisins, puis pour ceux qui en ont, de poser leurs lunettes et puis de regarder sans lunettes. Finalement, la culture, c'est un peu comme une paire de lunettes. Hein. C'est comment est-ce que, en fonction de ce que j'ai appris, dans quel environnement j'ai grandi, eh bien, ça m'a mis un calque sur les yeux. Hein, et je vais regarder le monde, hein, et je vais regarder les gens enfin, à travers, en fait, ce filtre. Voilà. Donc, par exemple, Ben voilà, quand on peut me dire ou je peux entendre des professionnels qui se posent des questions sur certaines familles, hein, voilà, mais pourquoi? Mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais moi, je comprends pas ça. Je comprends pas tel comportement, telle pratique de maternage, etc. Ben, souvent, en fait, tout le travail déjà, c'est de se rendre compte que le pourquoi, hein, ou le je ne comprends pas. Bah, il est vraiment en lien simplement parce que moi j'ai d'autres repères, j'ai intégré vraiment un autre filtre et donc il faut que j'arrive à me rendre compte que j'ai un filtre et que je le pose hein, pour essayer d'aller attraper peut-être le filtre du voisin, même si j'y arriverai pas totalement parce que c'est pas possible de se décentrer complètement. Hein, mais cette question du décentrage, on en parlera un peu plus tard, elle est essentielle. Sinon, on ne peut pas se rencontrer, selon moi, hein, si on garde toujours ce filtre. Donc, il est en nous, on l'a, mais il faut en prendre conscience pour pouvoir vraiment être dans une rencontre. Alors, rapidement, je voulais aussi vous proposer ce modèle qui a été proposé par Denoux récemment. Donc, Patrick Denoux, pour ceux qui sont à la fac ici. Voilà, est un ancien professeur qui est parti à la retraite là, qui a dirigé ces dernières années le laboratoire et notamment le master interculturel, mais il est revenu. Moi, quand j'ai fini, il était pas encore revenu. Voilà, donc j'ai pas. En tout cas, il a proposé ce modèle que je trouve très intéressant dans ces trois dimensions, hein, c'est-à-dire que on a trois niveaux de rapport à la culture selon lui, et je les trouve intéressants. Le premier niveau, c'est la notion d'appartenance. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit rapidement tout à l'heure sur, bah, je viens d'où, hein, dans quel bassin moi j'ai été plongée, voilà, qui étaient mes ancêtres, c'est quoi ma filiation, et donc c'est quoi mon enculturation? Alors on n'a jamais accès tout à fait aux réponses à cette question, mais en tout cas déjà quelle représentation moi j'en ai. Donc ce premier niveau d'appartenance. Ensuite il y a un second niveau qui est la revendication, c'est-à-dire que ok j'ai été trempée dans un bain super, j'ai toutes ces couleurs avec moi, sauf qu'en fait bah il y en a plein qui ne me conviennent pas. Je ne suis pas un pur produit de mon enculturation, d'accord? Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que bah, j'ai été en contact avec tout un tas de personnes, de milieux, d'expériences qui ont fait que mon identité culturelle, elle s'est métamorphosée. Et c'est ça qui est très important aussi dans la culture, hein, c'est que la culture, je l'ai dit, elle n'est pas figée. On ne peut pas reproduire comme ça, une culture, on ne peut pas avoir envie que nos enfants, nos arrière-petits-enfants soient voilà, les purs produits de nos transmissions. Ça ne marche pas, et heureusement. Donc, la culture, c'est une vraie création après, hein, pour le sujet. Donc, il y a cette revendication, c'est-à-dire, bah, moi, en fait, peut-être, ça ne me convient pas de vivre comme ça, ou peut-être j'ai découvert autre chose, et en fait, ça me convient, ça me parle, ça fait sens pour moi. C'est pour ça que je disais que c'est un réseau de sens. Donc, je vais me revendiquer peut-être d'une autre appartenance, hein, ou je vais me revendiquer d'une pluralité d'autres choses parce que c'est ça qui fait sens pour moi. Donc ça, c'est le deuxième niveau, la revendication. Et puis, on a un troisième niveau qu'on oublie souvent, qu'on met parfois un peu de côté, qui est l'hétérodéfinition. Et pourtant, c'est un niveau très important. L'hétérodéfinition, c'est, OK, il y a moi, comment je me perçois? Mais il y a aussi les autres. Dans quelle case les autres ils me mettent? Hein, c'est-à-dire à quel je suis affiliée par les autres, à quoi et où? Et ce qui peut être difficile, c'est quand il y a trop d'écart entre les trois niveaux. Hein, c'est-à-dire que si par exemple bah, je viens de tel milieu culturel, dans ma famille il y avait telle culture, et puis il y a un énorme écart avec moi, mes revendications. Déjà, il va falloir que psychiquement, je trouve des stratégies pour bah, trouver de la cohérence avec tout ça et garder hein, un sentiment de continuité d'existence, comme je disais tout à l'heure, pour l'identité. Et puis, si en plus de ça, il y a un écart important avec ce que la société me renvoie, hein, ou peut-être les groupes d'à côté me renvoient, hein, m'assignent à autre chose, m'affilient à une autre appartenance, ça peut être aussi très coûteux pour le sujet. Voilà, ça peut être identitairement compliqué. Typiquement, je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, bon, bah, j'accueille une famille qui est, je vais vous donner cet exemple qui est assez parlant. Donc, on est en maternité On a une sage-femme qui accueille une première famille de religion musulmane. Et cette famille demande à un certain rituel, en fait, à la naissance du bébé. Donc, la sage-femme, c'est la première fois qu'on lui fait cette demande. Donc, elle est OK, elle écoute, elle accepte de laisser faire ce rituel aux parents. Et puis, quelques mois plus tard, elle accueille une autre famille. Ah, j'ai oublié de préciser que la première famille est musulmane, mais marocaine. Et donc, elle accueille une seconde famille marocaine des mois plus tard. Et puis, pensant bien faire, elle dit à la famille, bon, si vous souhaitez faire tel rituel, il n'y a pas de souci, vraiment, voilà, sentez-vous libre de faire ce que vous souhaitez. Et les parents l'ont regardée de manière très étrange, hein, lui disant, mais on ne sait pas du tout de quoi vous parlez. voilà, tout simplement parce que cette famille avait une autre culture familiale, n'était pas de religion musulmane, et elle avait une autre culture et donc d'autres souhaits, en fait, pour le bébé à venir. Donc voilà, en fait, cette sage-femme, elle avait fait maladroitement hein, une assignation finalement hein, de cette famille. Elle avait catégorisé cette famille avec ses propres repères, son expérience, pensant bien faire, mais elle était tombée complètement à côté du besoin de la famille. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire alors quand on est en contact les uns avec les autres? Finalement, qu'est-ce qu'on fait tout le temps sans s'en rendre compte parfois? Voilà, donc quelles seraient les attitudes possibles? Alors évidemment, mon PowerPoint, il n'est pas exhaustif, hein, mais voilà, j'en ai sélectionné certains. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait de l'altérité quand on est dans la rencontre? Parce que finalement, l'altérité, elle est toujours là. Hein, à chaque minute, à chaque jour. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on accueille, quand on est soignant, quand on accueille des familles, quand voilà, dans notre travail, dans nos institutions. Donc, on va regarder qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a un universitaire, enfin un auteur qui s'appelle Camilleri, qui a travaillé sur les stratégies identitaires. Donc mon travail s'appuie un peu sur lui, mais pas uniquement. Et donc lui, il a classé un peu en deux catégories ses stratégies identitaires. Il a proposé des stratégies qui seraient plutôt de l'ordre de l'ouverture. Hein, donc comment est-ce que face à l'altérité, on peut être dans voilà, ces processus dits d'ouverture. Et au contraire, donc là je le simplifie un peu, hein, mais et au contraire, voilà, d'autres types de stratégies qui seraient plutôt de l'ordre de la fermeture pour lui. Donc moi je ne les ai pas classées comme ça, mais je vous le dis, puis vous allez faire vous-même le classement. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'altérité, elle interroge énormément nos identités. C'est bien pour ça qu'on en parle, c'est parce que souvent, on ne sait pas quoi en faire, hein, et que ça nous met à mal dans nos pratiques. Voilà, que ce soit d'ailleurs dans notre milieu personnel ou dans nos milieux professionnels. Hein. Bien souvent, comme ça interroge nos identités, voilà, ça nous met à mal et on ne sait pas toujours quoi en faire. Alors, une des premières choses possibles, et qui est quand même assez extraordinaire, c'est la question de la créativité. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, quand on est face à une nouvelle situation, et qu'on a les ressources pour, psychiques, matérielles et autres, ben, on peut être dans cette créativité. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie et on peut être dans un échange, on peut être dans un échange même voilà, de pratiques, on peut être, je pense à une autre mère aussi, qui pouvait dire à quel point elle avait été heureuse d'avoir ce troisième bébé en France parce qu'elle avait l'impression qu'elle allait pouvoir éduquer cet enfant un peu comme elle le voulait, hein, contrairement à ses autres enfants qu'elle avait eus en Afrique subsaharienne où c'était le groupe qui allait vraiment porter cet enfant. Là, elle pouvait dire, bon, c'était son vécu à elle, hein, qu'elle allait pouvoir faire comme elle le voulait. Elle avait très envie voilà, d'adopter, de comprendre comment les femmes françaises ici faisaient avec leurs enfants. Donc, elle était pleine d'envie, hein, et d'ailleurs pleine de créativité pour voilà, être dans l'accueil de ce bébé. Donc la créativité, finalement, c'est quand ça se passe au mieux, hein, voilà, quand la rencontre elle est positive et fructueuse. Alors, un autre processus possible, c'est la question de l'intégration. Donc quand on se rencontre, hein, et pensez peut-être à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le processus d'identification, parfois, peut-être que je vais avoir envie d'intégrer hein, des choses de l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, je lis des livres japonais parce que j'adore la littérature japonaise. Peut-être qu'en même temps, et on est dans un monde où toutes les cultures se touchent de manière très très rapide et très très forte, donc on a accès à plein d'éléments culturels, ethniques, même de très très loin, on peut les avoir très très près, par exemple. Mais donc peut-être que je vais avoir envie d'intégrer certains éléments hein, de la culture de l'autre, parce que ça fait sens pour moi, voilà, tout simplement. Donc l'intégration, c'est aussi, hein, pour Camilleri, voilà, plutôt dans les stratégies d'ouverture. Ensuite, on a aussi l'assimilation. Alors, pourquoi l'assimilation, elle va dans les processus d'ouverture, même si souvent l'assimilation, c'est quelque chose, et à juste titre, de regarder comme plutôt négatif. En fait, l'assimilation, c'est l'idée, il y a pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement, tu parlais des langues tout à l'heure, bien souvent, il y a des parents qui peuvent encore dire aujourd'hui, je ne souhaite pas transmettre ma langue maternelle parce que j'ai peur que mes enfants aient plus de mal à apprendre, parce que voilà, on m'a dit que, parce que, etc. Et donc des familles qui sont aussi dans une recherche d'assimilation hein, par rapport à la culture du pays d'accueil, parce qu'ils pensent hein, que c'est comme ça que ça va mieux marcher. Hein, et parce que souvent, ils ont envie aussi hein, de vraiment d'être intégrés, et donc ils pensent souvent à pas à juste titre, que c'est en rognant vraiment, en mettant de côté leur code, hein, en mettant de côté peut-être leur langue, qu'ils vont y arriver. Donc ça, c'est tout ça, c'est des préconçus, des prépensées, mais qui sont assez fausses, même scientifiquement. On sait notamment par rapport à la langue maternelle que, au contraire, le bilinguisme, c'est quelque chose qui va favoriser en fait vraiment les acquisitions cognitives, etc. Donc cette assimilation, souvent, c'est une volonté quand elle n'est pas imposée par la société d'accueil ou pas imposée par les institutions. Donc pour moi, on a un gros travail à faire là. Mais c'est souvent un mouvement hein, des parents qui ont envie hein, et qui croient faussement que c'est en mettant de côté leurs appartenances et leurs codes qu'ils vont y arriver. Voilà. On pourra en reparler tout à l'heure, bien sûr, si vous avez des questions là-dessus. Alors, l'altérité, je disais tout à l'heure, elle bouscule beaucoup. Hein, elle nous bouscule beaucoup, surtout quand on a l'impression qu'il y a un écart très important entre moi et l'autre, que je ne comprends pas, voilà, l'autre. Parfois, peut-être ce qu'on peut, un des biais possibles dans la rencontre, c'est l'ethnocentrisme. Alors, l'ethnocentrisme, c'est l'idée que ma lunette à moi, mon filtre dont je parlais tout à l'heure, bah, il n'y a que celui-là, en fait, et que tout le monde hein, voit comme moi, à travers ma lunette. Voilà. Donc, c'est de penser que ben, non, les bébés doivent dormir dans des berceaux où les bébés doivent être portés, transportés en poussette. Voilà, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Bon, mais ça, c'est clairement un ethnocentrisme de ma part, si je dis ça. Hein, parce que je pense les choses à travers mon appartenance culturelle à moi, peut-être, à travers le fait que moi, j'ai grandi comme ça, ou que ma mère m'a dit quand je suis devenue mère qu'il fallait faire comme ça, ou que j'ai vu que dans la société, il fallait faire comme ça. Donc, ça, c'est un biais possible hein, dans la rencontre, c'est de croire que voilà, notre propre pensée, c'est la juste pensée hein, pour les familles. Et bien souvent, quand on est soignant ou accompagnant ou accueillant, ça peut arriver qu'on se prenne un peu les pieds dans le tapis là-dedans, hein, parce que on a appris des choses, on pense on a été formaté par nos études, et puis parfois les parents nous attendent aussi comme sachant, donc faut trouver une réponse. Mais voilà, il faut toujours rester dans cette idée de décentrage. Alors, un autre biais possible, c'est le rapport de domination. C'est un peu ce que je viens de dire là. C'est-à-dire, moi, en tant que professionnelle, ben, je suis peut-être, sans m'en rendre compte, dans un rapport de supériorité hein, par rapport à la famille que j'accueille. Moi, en tant que soignant, voilà. Et donc, il faut que j'interroge. Hein. Alors, souvent, en France, on grince beaucoup quand on parle de domination, mais sauf que c'est quand même le cas dans certaines rencontres et dans certains rapports institutionnels. Donc, le rapport de domination, il est aussi là comme un espèce de fantôme dont il faut aussi qu'on puisse parler parce qu'il faut s'en dégager. Alors, Les mouvements de repli aussi, ça c'est des choses qu'on peut observer finalement chez tout le monde. Voilà, quand c'est trop différent, quand il y a trop d'écart, hein, je peux aussi, moi, ressentir de l'angoisse. Hein, en jargon psychologique et psychanalytique, on parle de transfert, de contre-transfert. Et donc, ça peut arriver hein, que dans mon contre-transfert culturel, hein, il y a tellement de, voilà, ça m'angoisse, j'y comprends rien à cette famille, ils font des trucs, mais je mets pas de sens moi dessus parce que j'ai pas la bonne grille de lecture. Et donc, voilà, je vais pas pouvoir les accueillir, je vais peut-être avoir du mal à m'en occuper. Donc voilà. Ça c'est aussi des choses qu'on peut retrouver chez les familles, bien sûr, hein, des mouvements de repli, hein, qui et ça, je pense que vous en avez sûrement déjà rencontré. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait se rencontrer parce que cette famille nous échappe, parce qu'on n'y arrive pas, parce que voilà, ils viennent pas au rendez-vous. Dès qu'on leur demande, ben voilà, ils n'arrivent pas à s'asseoir, quoi. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, on peut être aussi fasciné hein, par la culture de l'autre. On peut être dans un espèce d'exotisme, et c'est ce qu'on peut voir parfois dans certains mouvements aussi, ou dans certains écrits, ou dans certaines paroles. Voilà, non mais ça, c'est génial là-bas, c'est super ce qu'ils font dans telle culture, dans telle, voilà. Hein. Et alors, la fascination, finalement, ça empêche aussi de travailler comme il faut. Voilà. Alors, on a aussi la question de la catégorisation. Alors ça, c'est un peu comme les jugements, on en fait tous, voilà. Hein, pourquoi? Parce qu'on a un cerveau qui est quand même très paresseux. On n'aime pas trop hein, aller dans la complexité des choses. Donc c'est très très neurologique ça. Hein, on a un cerveau qui, plus c'est facile, plus je peux analyser mon environnement de manière simple, moins ce sera coûteux et plus ce sera facile pour moi. Donc c'est pour ça que ça nous amène à être dans des catégories. Hein, on va placer les gens dans des catégories socio-professionnelles, dans des catégories culturelles, d'appartenance, etc. Bon, bien évidemment que quand on fait ça, ça peut être un premier essai. Hein, voilà, c'est une première analyse, mais l'idée, c'est quand même d'en sortir, hein, de se dire, OK, là, en fait, de prendre conscience de son jugement, de prendre conscience de sa catégorisation, et puis ensuite de se dire, c'est un peu plus complexe que ça, est-ce que je pourrais descendre dans la partie submergée de l'iceberg et je pourrais aller essayer de creuser un peu parce que je ne vais pas m'arrêter simplement à ce que je vois, même si pour mon cerveau, ce serait plus sympa. Bon, voilà, les préjugés, c'est la même idée. Les jugements aussi. Donc, il ne faut pas se défendre, hein, on en a tous, voilà, vraiment. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait et est-ce qu'on peut descendre à un niveau d'analyse ou monter, comme vous voulez, au moment que vous décidez. Voilà, un peu plus approfondi. Bon, et puis, in fine, si on s'arrête simplement à nos catégorisations, bah, ça pourrait nous amener à être dans de la discrimination. Et donc là aussi, ben, passer complètement à côté de la rencontre, hein, en fait, parce que voilà, on va s'arrêter simplement à peut-être un trait de la personne hein, qu'on va mettre en avant, et puis voilà, on va juste s'arrêter à ça et on ne pourra pas se rencontrer. Voilà, un peu pour les mouvements possibles. Donc il y en a d'autres, hein, mais voilà, ce que j'avais envie de vous présenter ce soir. Donc tout ça peut amener hein, à beaucoup d'incompréhension, à beaucoup de malentendus culturels. Et moi, c'est ce que j'observe quasiment systématiquement dans les institutions quand je viens travailler sur ces questions. Parce que bien souvent, ce qui fait impasse, en fait, c'est que on ne se comprend pas. Voilà. Finalement, on a l'impression qu'on communique, mais on n'arrive pas à se comprendre parce que souvent, les besoins des uns des autres ne sont pas entendus et parfois ne sont pas compris. Voilà, tout simplement. Donc, souvent, quand vous avez des familles que vous n'arrivez pas à rencontrer au sens large du terme, c'est souvent parce que les familles, elles comprennent pas hein, le sens que vous vous mettez à votre demande, que vous vous mettez voilà, à leur place, ce que vous attendez d'eux. En fait, souvent, y a vraiment juste des incompris. Alors, c'est pas juste parce qu'après, il faut détricoter tout ça pour se rencontrer, mais Mais souvent, voilà, c'est là que ça se place. Et donc, quand on est trop en incompréhension, ben souvent il y a du rejet de part et d'autre. Donc souvent c'est des parents qui vont aller voir ailleurs ou qui vont être dans des rapports avec vous qui vont être très conflictuels. Voilà. Alors, par rapport à cette notion de parentalité, maintenant que j'ai un peu posé les bases, voilà, de l'aspect culturel dont j'avais envie de vous parler. Alors, peut-être simplement pour poser le fait que oui, devenir parent, c'est vraiment une crise identitaire majeure. Et elle est comparable à celle de l'adolescence, en fait. Hein? Donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu convaincu de ça. Mais les familles, souvent, elles ne sont pas trop au courant. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de, parfois d'interrogations, de souffrances, voilà, d'un mal-être, d'une solitude aussi, d'un isolement. Quand on n'est pas bien, on se demande si c'est normal ou si on est fou. Donc non, devenir mère ou devenir père, ça bouleverse totalement l'identité. Et donc, c'est vraiment une crise psychique, hein, c'est une crise émotionnelle, c'est une crise physique aussi, hein, parce que physiquement, voilà, je ne fais pas un dessin, je n'ai pas besoin, mais voilà. Donc, c'est une crise identitaire majeure, hein, et qui va toucher à plein d'endroits différents. Donc, cette crise identitaire, elle est forte, elle peut être plus ou moins longue aussi. En fonction des personnes. Et elle peut nécessiter aussi des choses très différentes en fonction des couples. Évidemment que j'inclus le père là-dedans. Je ne précise pas, mais le père aussi vit une crise identitaire majeure quand il devient père. Mais c'est marrant, j'ai quand même besoin de le préciser, pour être sûre qu'on est d'accord. Alors, une notion qui me semblait intéressante pour vous aussi, c'est la notion du berceau culturel. Ça, c'est Devereux qui a parlé de ça en premier. Donc, Devereux, c'est le père de l'ethnopsychiatrie, qui était anthropologue et psychanalyste américain. Enfin, il est devenu américain. Donc, le berceau culturel, c'est cette idée que ça rejoint un peu cette notion d'enculturation, hein, dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vraiment comment moi, en tant que parent, je vais me raconter ce bébé et cet enfant. Qu'est-ce que je m'en dis? De quoi, qui il est? Hein, est-ce que c'est simplement voilà, la rencontre d'une ovule et d'un spermatozoïde qui fait qu'il est là, ou est-ce que c'est bien autre chose qui fait qu'il est là? Hein, par exemple, c'est une réincarnation d'ancêtre, c'est peut-être grâce à telle personne que on arrive à avoir un enfant, peut-être c'est la médecine qui m'a aidée à, peut-être voilà. Donc il y a toute une histoire, une préhistoire en fait, je dirais même à l'enfant. Et puis, peut-être c'est voilà, en fonction de si c'est le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, ben, je vais le nommer différemment. Peut-être si c'est ben, voilà, une fille, elle n'aura pas le même traitement que si c'est un garçon. Et si c'est une fille et que je sens que c'est une fille, ben, peut-être je vais avoir des rituels physiques qui ne seront pas les mêmes que si c'est un garçon. Voilà, des exemples comme ça. Et pourquoi c'est important? Parce que ce qui il est, hein, dans la culture, va répondre à de quoi il a besoin, cet enfant. D'accord? Donc, et du coup, le de quoi il a besoin vient répondre à comment je vais m'en occuper, hein, qu'est-ce que je vais lui donner. Donc, ce berceau culturel, il est hyper important, hein, il est essentiel. Et on va se demander tout à l'heure, qu'est-ce que j'en fais quand je suis plus dans ma culture d'origine? Qu'est-ce qui se passe pour moi, hein, voilà. Donc, c'est un peu ça, le berceau culturel. Alors, on pourrait le rapprocher souvent, les étudiants, ils me font le lien avec, oui, le bébé imaginaire. Alors, oui, mais pour moi, ça va plus loin que ça. Hein, c'est pas juste le bébé pensé, le bébé désiré, le bébé fantasmé. C'est en fait aussi concrètement cet enfant, qui il est, pour après que je puisse me dire, ben voilà, comment je vais m'en occuper, de quoi il va avoir besoin et quelle place il va avoir aussi. Hein, dans la famille et dans mon groupe, hein, dans mon groupe culturel d'appartenance. suis hyper bavarde. L'art de la callipédie, je ne sais pas si ça vous parle, ça. Alors, c'est une notion très anthropologique, mais que j'aime beaucoup, et qui parle beaucoup, je trouve, et qui est différente dans chaque culture, que ce soit des cultures familiales ou des cultures plus larges. C'est cette idée de qu'est-ce qu'il faut pour avoir un beau bébé? En fait, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à avoir un bon bébé, un bébé en bonne santé? Et ça, c'est souvent c'est la culture qui vient répondre à ça, hein. Alors, je vous invite à réfléchir simplement, vous, dans votre tête, qu'est-ce que peut-être, autour de vous, on a raconté autour de ça. Hein, par exemple, moi, je sais que ma grand-mère, quand j'étais enceinte, elle disait, non, non, il ne faut pas que tu entendes des conversations trop difficiles, tu vas émotionnellement, tu vas prendre, ça ne va pas du tout, il ne faut pas. Donc, à chaque repas de famille, quand il y avait des sujets un peu houleux, elle disait un peu à tout le monde, non, non, on ne va pas en parler là, parce que voilà. Donc c'était une manière finalement de dire aussi, pour que ça aille bien, pour que ce bébé aille bien, pour me protéger entre guillemets, il fallait pas être en lien avec des émotions trop fortes. Donc ça peut paraître un peu ridicule, mais en fait c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est aussi des repères, hein, que la mère elle a intégré ou que le père il a intégré de ces éléments culturels d'appartenance, et ces repères font sens. D'accord? Donc si moi j'ai intégré que pendant ma grossesse il fallait que je fasse telle chose et pas telle autre, il faut que je le fasse parce que ça a du sens pour moi et donc il faut que ça puisse se mettre en place. Hein, sinon je pourrais aussi me sentir mauvaise mère si je le fais pas, peut-être, ou je pourrais me sentir disqualifiée, ou je pourrais me sentir pas protégée, je pourrais avoir l'impression que je mets mon bébé en danger, par exemple. Enfin voilà. Hein, donc ce sont des notions assez intéressantes. Oh oui, par exemple, tout à fait. Faut pas manger trop de ci ou faut manger plus de ça, bien sûr. Voilà, c'est un peu tous nos savoirs populaires aussi parfois, hein, voilà, qui se transmettent. Mais en fait, tout ça, c'est de la culture. Alors, j'ai envie de vous inviter peut-être à imaginer pour vous. Qu'est-ce que ce serait de mettre au monde un bébé dans un pays étranger, hein, dont vous ne maîtriseriez pas la langue ni la culture? Ce serait quoi vos premiers besoins? Donc, je ne sais pas, trouver un exemple. Demain, je vous propose d'aller mettre au monde un enfant au Vietnam, tiens. Je ne sais pas s'il y a des Vietnamiens dans la salle. Ou au Sri Lanka, un endroit qui serait très éloigné de vos repères à vous, hein, et pour lequel vous ne maîtriseriez pas la langue et qui serait un endroit inconnu. De quoi vous auriez besoin? Comme ça. De douceur, ok? D'un traducteur. Plusieurs traducteurs. OK. De la famille. Ouais. D'accord. Du soutien. OK. D'une péridurale. D'accord. Je vois pas. L'accès à un médecin, ouais, à des médecins. D'accord, qu'il y a une réponse médicale possible. OK. Ouais, OK. Ça serait votre sécurité, ouais. D'avoir un toit. OK. Il y a d'autres besoins? Ouais, mais ça, on peut pas trop le contrôler. Enfin, qu'il y ait un accès aux soins pour le bébé. Ouais. D'accord. OK. Ouais. Le temps de le rencontrer. D'autres choses? Alors, c'est intéressant. Donc, c'est cette idée, bien sûr, moi j'entends. Hein, donc, il y a la question médicale, la question de l'écoute, la question de la langue, la question de la protection aussi, à la fois pour l'enfant, à la fois pour soi. Hein, et puis, on voit bien que pour chacun, c'est différent, hein, même si c'est des choses qui reviennent, parce que c'est en effet quelque chose d'assez essentiel. Mais malheureusement, qu'on n'a pas toujours. C'est-à-dire que même si aujourd'hui les recommandations de la HAS, c'est la traduction à l'hôpital, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas malheureusement à chaque fois. Même si il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et récemment, je me faisais la réflexion, comment ça se fait que. Alors, c'est très. Vous allez me dire, oui, non, mais. Donc, je travaille beaucoup en crèche et il y a cette idée que souvent, à la mairie de Toulouse, parce que je travaille avec eux, il y a les dossiers qui sont récoltés et puis, souvent, c'est écrit la langue, hein, ou peut-être pas toujours d'ailleurs. Et moi, souvent, je dis, mais comment ça se fait que pour le premier entretien, vous n'avez pas accès à un interprète? Pour le premier entretien, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, il y a trop de sous, c'est trop cher. Là, là, là. Mais voilà, juste, est-ce que cette idée de la langue, par exemple, elle pourrait être un peu plus soutenue, hein, parce que pour moi, ça fait référence à l'accueil, vraiment. Hein, et quand on peut avoir un super premier entretien, mais si on ne se comprend pas, ça mettra à mal tout le monde. Hein. Donc voilà, cette notion de la langue, elle est. Je rebondis là-dessus, mais voilà. Alors, quelques chiffres rapides, juste un état des lieux. Donc en 2021, 10% de la population française est représentée par des immigrés. On a 51% de cette population qui sont des femmes, donc finalement une personne sur deux. C'est moitié-moitié. Et puis, on a donc une naissance sur cinq en 2017 qui concerne des bébés issus de mères immigrées. Alors, voilà quelques petites questions, petites entre guillemets, bien sûr, parce que ce sont des questions fondamentales que je ne vais pas trop avoir le temps d'approfondir. Mais c'est quoi les facteurs d'influence, hein, du devenir parent quand on est en contexte de migration? Qu'est-ce qui va aider le parent ou qu'est-ce qui va freiner, hein, là on est sur de la théorie, mais c'est quand même le réel aussi, vraiment, pour être dans une rencontre, pour voilà, ben voilà, se sentir un peu tranquille dans le pays d'accueil. Donc il y a évidemment la question du départ, hein. Pourquoi est-ce qu'on est parti de chez soi? Voilà, pour quelles raisons et avec quel projet? Est-ce qu'il y avait un projet déjà? Parce que parfois, il n'y a pas de projet. C'est quoi les conditions de mon voyage? Hein, voilà, pareil, je vais pas vous faire de dessin, vous n'avez pas besoin. Mais c'est des questions qui sont essentielles parce qu'on n'arrive pas de la même manière en fonction de ça. Hein, on n'arrive pas dans les mêmes dispositions psychiques, on n'arrive pas avec les mêmes ressources émotionnelles et psychiques en fonction de pourquoi on est parti et comment on est arrivé. Et aussi, est-ce que je vais pouvoir rentrer un jour? Ou en fait, est-ce que pour ces raisons d'exil politique ou autre, je ne pourrais pas rentrer chez moi? C'est quoi mes conditions de vie? Avec quoi je suis arrivée? Conditions de vie sociale, donc est-ce que j'arrive seule? Est-ce que je viens pour retrouver de la famille? Est-ce que je suis venue à plusieurs? C'est quoi mes conditions économiques? C'est quoi mes ressources? Bien souvent, il faut avoir en tête que on perd, hein, beaucoup socialement, on perd beaucoup aussi en termes de niveau de vie, hein, voilà, parce qu'il y a plein de diplômes qui sont pas reconnus en France et qui font que les personnes qui arrivent ici, ben, elles peuvent pas travailler, elles sont pas reconnues qualifiées, donc ça, c'est extrêmement douloureux. Donc voilà, la question évidemment après du reste, est-ce que je parle la langue? Est-ce que j'ai accès aux informations? Comment je me débrouille? Est-ce qu'il y a une communauté d'accueil ici quand j'arrive à Toulouse? Est-ce que voilà, qui c'est qui peut m'aider? Et c'est sûr que en fonction des premiers facteurs, je ne vais pas arriver avec les mêmes ressources aussi et le même état d'esprit et la même disponibilité. Une question qui est intéressante aussi, c'est de savoir est-ce que la famille a déjà eu des enfants avant? Est-ce que c'est un premier bébé en France ou est-ce qu'il y a déjà eu des enfants qui sont restés au pays? Des fois, on ne le sait jamais parce que les parents ne vont jamais nous le dire ou la mère ne le dira pas. Mais parfois, on le sait. Voilà. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, ça pose la question de l'expérience. Et puis, ça pose aussi la question de qu'est-ce que cette famille attend aussi? Hein, est-ce qu'elle va être dans une comparaison? Hein, est-ce que, voilà, en tout cas, c'est une question qui peut avoir du sens. Donc, c'est évident que c'est un défi majeur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit au début, moi, en tant que parent, déjà, de manière ordinaire, je vais vivre une crise majeure de mon identité quand je vais devenir parent. Mais si en plus, c'est couplé avec une migration, évidemment que ça en ajoute sur les défis, hein, sur ce à quoi je vais faire face. Donc, la migration, elle provoque une rupture brutale de nos repères. Hein, souvenez-vous ce que j'ai dit sur l'identité tout à l'heure et sur la culture. Ma culture, elle a du sens que si je peux voir à travers elle. Hein, si tout d'un coup je vais dans un autre pays ou dans une autre ville ou dans un autre endroit qui est très loin de mes repères à moi, je vais me retrouver sans repères. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis sans repères? Ça n'a plus de sens. Comment je vais essayer de bricoler des choses? Ben, certains vont y arriver, d'autres pas, pour plein de raisons. Je ne peux pas forcément en trop énumérer, mais j'en ai dit quelques-unes déjà. Il y a l'isolement social. Hein. L'isolement, c'est un facteur majeur de la dépression du postpartum. C'est un facteur majeur dans plusieurs pathologies. Je vous ai mis des chiffres un peu après pour vous montrer que cette population immigrée, que ce soit les mères ou les pères, elle est surreprésentée dans les pathologies périnatales. C'est pas pour rien, hein, c'est parce que justement, ils cumulent des défis, hein, et des difficultés. La migration, elle met à mal les compétences parentales de manière très forte. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas mon groupe qui va donner du sens, j'ai pas mon groupe qui peut comment dire me supporter dans mes hésitations. Et puis parfois aussi parce que la culture dans laquelle je fais grandir mon bébé, elle est très différente de la culture dans laquelle moi j'ai grandi. Et donc du coup, je peux me retrouver très en difficulté pour savoir quoi choisir. Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que ils font comme ça là, moi je fais comme ça normalement. Comment je fais pour trouver? Donc c'est là où toute la question de la créativité va arriver, mais quel équilibre je vais trouver, quel compromis je peux faire ou pas par rapport à ça. Donc Winnicott, c'est cette idée d'object presenting, hein. Donc c'est l'idée de présenter le monde à petite dose, ça fait partie des fonctions maternelles premières. Et dans la migration, pour certaines familles, c'est très compliqué. Voilà, pour ces raisons-là, de manque de repères, de manque d'étayage. Donc, la précarité économique aussi, hein, la perte du statut social dont j'ai parlé tout à l'heure, la discrimination, l'isolement, elles ne sont pas spécifiques, hein, aux personnes issues de l'immigration, mais elles sont exacerbées par l'immigration. Donc, ce qui va être compliqué pour certaines familles, c'est de savoir comment s'adapter. Comment j'ai envie, moi, que mon enfant s'adapte aux codes et aux valeurs de ce pays d'accueil. J'ai envie de lui donner toutes les chances possibles pour qu'il soit bien intégré, pour qu'il ait un travail, pour qu'il soit heureux dans la vie. C'est ce que veulent tous les parents du monde. Sauf que comment je peux faire si, moi, mes codes culturels sont différents? Ainsi, peut-être j'ai certaines valeurs, je ne les comprends pas et même je n'y adhère pas. Voilà. Alors parfois parce qu'on ne me les a pas expliquées, des fois, hein, c'est juste un défaut d'explication, d'explicitation, mais parfois c'est aussi parce que ça ne me parle pas, hein, et ça rentre pas dans mes convictions culturelles. Donc, comment aussi je peux mettre au monde un enfant si j'estime que l'extérieur peut être hostile et inapproprié, hein? Ça me fait peur, moi, de mettre au monde un enfant ici. Voilà, je ne sais pas comment je vais réussir à faire le lien entre mon monde à moi et le monde d'ici. Donc, c'est vraiment cette idée de mettre au monde entre deux cultures. Hein, ça peut être extrêmement coûteux aussi psychiquement pour les parents. Parce que parfois aussi, je peux avoir peur de transgresser. Hein, transgresser certains rituels, transgresser certaines pratiques, transgresser certaines croyances. Hein, j'avais suivi une maman comme ça qui pouvait me dire qu'elle savait qu'à partir du moment où elle avait fait un enfant avec un Français, elle serait désaffiliée. Voilà, hein, il n'y aurait plus d'affiliation de son groupe d'appartenance parce qu'elle ne s'était pas mariée avec un homme de sa culture d'origine. Donc, voilà. Quel choix de transmission, quel choix d'éducation pour ses enfants, pour mes enfants, quand je suis entre deux et que j'arrive pas à faire de pont, j'arrive pas à faire de lien, que ça fait pas sens. Et c'est là où vous avez un sacré boulot et on a tous un sacré travail. Donc il y a une persistance d'inégalités sociales de santé selon l'origine, hein, ça c'est pas moi qui le dis. Il y a une morbi-mortalité maternelle qui va être plus élevée chez les mères immigrées, un risque de dépression du postpartum augmenté, un état de stress post-traumatique souvent plus complexe, qui vont être surreprésentés aussi chez ses parents, et une précarité, voilà, comme je parlais tout à l'heure. J'ai plus beaucoup de temps, je suis arrivée à la fin, non? Non. Alors maintenant, on fait quoi avec tout ça? C'est-à-dire que rapidement, je vous ai posé un peu le paysage. Il y a deux études qui sont sorties voilà, ces dernières années qui montrent que bien souvent, alors c'est un petit, voilà, un petit clin d'œil entre guillemets, mais qui montrent que bien souvent, les soignants, en fait, même s'ils ne sont pas d'accord avec ça et qu'ils s'en défendent, en fait, et qu'ils n'en ont pas conscience, mais ils vont favoriser les personnes qui sont membres de notre groupe ethnique, social ou professionnel. Ça veut dire que sans s'en rendre compte, on va favoriser dans nos soins, dans nos accueils, les personnes qui nous ressemblent. Voilà. Donc ça, c'est terrible en fait de lire, mais c'est le cas. C'est pour ça que la question du décentrage, hein, dont je parlais tout à l'heure, mais la question de se questionner sur c'est quoi moi mes appartenances culturelles? Moi, je viens d'où? C'est quoi ma paire de lunettes? Comment j'ai été portée moi en tant qu'enfant, comment qu'est-ce qu'on m'a transmis, comment j'ai grandi, dans quel environnement culturel j'ai grandi. C'est essentiel de se poser ces questions-là pour essayer d'éviter ça. Voilà, pour essayer de faire un pas de côté, hein, et sortir de l'ethnocentrisme qui peut parfois être très violent. Alors, en parlant de violence, la deuxième étude est assez terrible. Je vous ai mis la en bibliographie, vous retrouverez l'étude. Donc 2020, c'était hier, quoi. En Floride, on a montré que la couleur de peau des bébés influençait leur espérance de vie à l'hôpital. Hein, ça veut dire que quand le médecin est blanc, les bébés noirs meurent 3 fois plus souvent que les bébés blancs. Voilà, donc c'est simplement pour illustrer l'analyse du dessus. Hein, donc c'est horrible. Hein. Alors les Américains, ils ont le droit de faire des études comme ça. Ce qui permet aussi qu'on ait accès à ce genre d'informations. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime vous parler de ce genre de, voilà, de propos interculturels. Donc, voilà, mes appartenances culturelles à moi, est-ce que j'en ai conscience? Hein, est-ce que j'ai conscience de leur impact? Est-ce que déjà je sais qui elles sont? Donc la culture, ce n'est pas uniquement une caractéristique de l'autre que j'accueille. Hein, la culture, c'est aussi, elle fait aussi partie de moi. Donc ce décentrage dont j'ai parlé, la culture comme un filtre, est-ce que je prends bien conscience que moi aussi j'ai un filtre devant les yeux? Voilà. Et est-ce que je peux prendre un peu conscience aussi que quand j'accueille une famille, peut-être que purée, elle m'agace, cette famille, elle est toujours en retard, j'en ai marre, on ne peut pas travailler comme il faut, elle répond jamais à ce que je demande dans les protocoles, ils sont jamais au clair, médicalement, l'enfant est jamais suivi. Voilà, toutes ces petites choses que je peux ressentir, hein, dans mon contact avec peut-être les patients que j'accueille ou les familles que je reçois. Tout ça, c'est des choses extrêmement importantes parce qu'elles viennent parler de moi, de ce serait quoi mes attentes selon ma culture à moi. Ah bah c'est qu'on soit super à l'heure, c'est que voilà, l'enfant soit bien suivi médicalement, alors que peut-être pour la famille, ce qui prévaut, ce n'est pas le médical, mais c'est le fait que l'enfant mange bien, on mange diversifié. Pourquoi cette mère, alors que le bébé, il a 18 mois ou 24 mois, elle est encore en train d'allaiter? par exemple, voilà, hein, pourquoi je ne comprends pas, voilà, mais tout ça, je ne le comprends pas en lien avec mon filtre à moi. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va passer. J'avais fait deux slides simplement, peut-être juste pour reposer avec vous la question de la dignité et de l'hospitalité, parce qu'en fait, ça fait quand même partie de nos fonctions premières et de nos missions premières. Comment est-ce qu'on peut être hospitalier dans le sens d'hospitalité? Comment est-ce que je peux accueillir, hein? Et donc, évidemment que la première des choses, pour moi, c'est la question de la langue, et que ça, c'est une question majeure. Hein, comment est-ce que dans mes institutions, dans mon institution ou dans mon travail, je peux donner de la place à cette langue maternelle, voilà, qui est extrêmement importante. Et puis, comment aussi, je l'ai dit tout à l'heure, pour se rencontrer, eh bien, ça nécessite du temps et ça nécessite de l'écoute. Hein, c'est ça qui fait qu'on peut aussi être dans un accueil digne, hein, au sens de Cynthia Fleury, c'est-à-dire être vraiment dans une écoute du récit. Hein, de l'autre. L'autre, il a des choses à nous raconter de comment il fait avec son enfant, pourquoi il pense que ça, c'est important, pourquoi ce papa, ben, sa place à lui, c'est de ne pas être dans les soins maternels parce que lui, il considère que ce n'est pas sa place, mais qu'il en a une autre. Est-ce qu'il a la place de me raconter tout ça ou pas? Donc, ma conclusion, c'est celle-là. C'est finalement d'essayer, nous, en tant que soignants, de faire comme les parents qui passent leur journée de parents à bricoler, hein, qui passent leur journée de parents à chercher, à se questionner. Donc, comment est-ce qu'on peut être créatif et sortir des rigidités, des cadres parfois, hein, de nos institutions ou des protocoles auxquels on est soumis, qui parfois entravent grandement la rencontre. Alors, parfois, elle peut au contraire permettre la rencontre, mais parfois, elle peut vraiment l'entraver. Donc, comment est-ce qu'on peut rester vraiment créateur dans nos métiers pour permettre que cette altérité devienne non pas quelque chose qu'il faudrait gommer, hein, comme dit Myriam Mauny, mais au contraire, quelque chose qu'il faut amplifier. Hein, c'est une ressource, l'altérité, c'est une ressource, la diversité. Et ce n'est pas vraiment pas quelque chose qu'il faut effacer, supprimer. Je vous remercie.
Ce travail que tu fais, Cynthia, et que tu nous as partagé sur l'interculturalité et l'altérité, est à la fois les racines de notre identité unique et de notre capacité à vivre ensemble. L'interculturalité est présente dans toutes les rencontres. Vous allez maintenant entendre quelques questions-réponses qui ont suivi la conférence.
Comment font les enfants qui sont issus déjà d'un métissage culturel, donc quand on a deux parents issus de cultures différentes, et puis en effet parfois d'être plongé dans une troisième culture du pays d'accueil, donc ça ferait trois propositions différentes. Comment ils font? Ben, ils ont souvent énormément de ressources et ils vont créer leur culture, donc c'est finalement on pourrait se dire d'une culture A et d'une culture B, et d'une culture C, ben, l'enfant va créer une culture, une quatrième culture, en fait. Voilà. Et c'est là où on parle aussi d'interculturalité, c'est-à-dire que l'interculturel, en fait, c'est l'idée de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les contacts. Donc, typiquement, là, cet enfant, en fonction de ses ressources, en fonction de son environnement, en fonction de comment vont être portées ces trois cultures, ça c'est une question très intéressante. Il y a des enfants qui introjectent très rapidement que leur culture d'appartenance elle est négative, elle a une image négative, hein. Par exemple si on dit mais non mais parlez pas votre langue maternelle à votre enfant, ou bien voilà, si par exemple l'enfant grandissant, l'adolescent aussi entend ben voilà, qu'il est issu de telle culture et que c'est une culture dévalorisée par exemple. Bah ça, il va l'intégrer, hein, et donc potentiellement, il va peut-être être en difficulté lui aussi, hein, pour porter cette culture. Donc, l'environnement, hein, joue aussi énormément, hein, sur ses enfants. Plus c'est valorisé positivement, plus l'enfant va être tranquille et en capacité de pouvoir naviguer, hein, vraiment entre toutes ces cultures, entre les langues aussi, parce qu'on a plein d'enfants qui sont bilingues, trilingues, multilingues. Qui ça pose pas de problème, mais finalement je dirais que le facteur le plus Enfin, ce qui va coûter le plus, c'est qu'est-ce que me renvoie la société, qu'est-ce que me renvoie le regard extérieur sur mes appartenances culturelles. Et ça va être un levier énorme qui va raconter, qui va permettre est-ce que oui ou non cet enfant va pouvoir s'appuyer sur toutes ces cultures ou pas. Accueil collectif de jeunes enfants, comment est-ce que on peut faire un peu culture commune sur des pratiques quand déjà il y a des différences culturelles et c'est sûr, professionnelles au sein des équipes et quand on a en plus des protocoles hein, et des référentiels qui nous dictent comment être de bons professionnels auprès des enfants. C'est un sacré défi aussi, c'est clair. C'est pour ça un peu que je disais sur la fin, bah, il faut essayer d'être créatif et de ne pas se laisser plomber parfois par voilà, toutes ces demandes de bonnes pratiques. Il me semble que pour essayer de, non pas d'uniformiser, parce que justement, je suis vraiment dans l'idée plutôt d'être sur de la diversité de propositions et de pratiques, mais est-ce que déjà dans l'institution, il y a des lieux pour parler chacun, hein, pour dire hein, ce que chacun fait avec l'enfant, comment chacun conçoit, ben, comment est-ce qu'on couche un enfant à sa manière, comment ses besoins d'alimentation, son rapport au père, son rapport à la mère, voilà. Est-ce que les professionnels, donc là je pense aux analyses de pratique, hein, par exemple, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour que déjà entre vous, hein, entre équipes, dans l'équipe, il y a des espaces pour penser ça, hein, et aussi pour dire, mais en fait, on n'est pas d'accord. Et ça, c'est super important aussi, comment on peut ne pas avoir peur de conflictualiser les choses, hein, de se dire, mais en fait, je comprends pas ce qu'elle fait, la collègue, là, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Est-ce que, et donc, du coup, d'ouvrir un espace de parole, ça permet, hein, de pouvoir s'entendre, et peut-être aussi, on n'avait jamais su que la collègue, elle faisait ça pour telle raison. Donc déjà, peut-être, ça me semble, ça peut être bête, mais ça me semble essentiel, voilà, d'avoir ces espaces d'échanges de pratiques, mais vraiment profondément. Alors pour ça, il faut être en confiance les uns avec les autres, il faut se sentir en sécurité, donc il faut pas trop de turnover. Donc ben voilà, je sais bien la réalité qui est pas toujours simple. Et ensuite, par rapport à vos référentiels, bien sûr que vous devez d'être dans certains clous institutionnels, mais je pense que là, pareil, de laisser la parole aux parents, c'est-à-dire de pouvoir leur dire et leur demander aussi. Comment vous faites-vous? Et après, nous, on va vous dire, après, nous, on va vous dire comment nous, ici, on ferait et comment c'est pour vous ça. Et est-ce que là, il y a un. Du coup, on crée une troisième culture. C'est-à-dire, moi, j'ai ma culture de professionnel, toi, ta culture familiale de parents. Eh bien, on va s'asseoir et puis on va chercher comment on crée ensemble une troisième forme. Si. Parce que je n'ai pas envie de t'imposer, parce que si je t'impose, je sais que tu vas être disqualifié, je fais des gros raccourcis, mais tu ne vas pas te sentir à l'aise dans tes compétences parentales, sauf qu'on vous demande aussi d'être sur un soutien à la parentalité. Donc voilà. C'est un peu paradoxal. Donc du coup, il me semble que c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver. On va proposer un espace qui va créer une troisième culture ensemble, dans lequel on aura adhéré. Hein, mais ça. Comme ça dit, comme ça c'est extraordinaire, on va le faire demain, sauf que ça prend énormément de temps, parce que j'ai parlé quand même de la sécurité, de la confiance. Et donc ça, c'est des heures et des heures de rencontres, de discussions, d'échanges en groupe, en individuel. Voilà. Mais il me semble que, et c'est sûr que là, on est très loin de la tarification à l'acte hospitalière. Voilà. Mais vous avez encore la chance de pouvoir accueillir les parents, d'avoir le temps de. Parfois, comme vous pouvez. Voilà, ce serait ma réponse.
Et tu as parlé, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, des facteurs d'influence dans l'être parent, où tu disais, voilà, c'est aussi les raisons du départ, la motivation, est-ce qu'on peut rentrer, revenir. Et je trouvais que tout ce que tu proposais là, potentiellement, c'était des items qui peuvent servir au dialogue, à pouvoir comprendre, voilà, comment les personnes peuvent s'ouvrir ou pas. Voilà. Et donc, moi, j'étais très intéressée par ça parce que c'est vrai que c'est tellement différent s'il y a une possibilité de retour, par exemple, ou pas, ou un désir de retour ou pas.
Et puis de voir aussi à quel moment est arrivé l'enfant dans cette histoire. hein, à quel moment il est arrivé? Est-ce que c'était pendant le parcours? Est-ce qu'il est arrivé par surprise, mais qu'il n'y avait pas du tout en fait au départ? Parce que avoir un pays dans le, pardon, avoir un enfant dans le pays d'accueil, pour certaines familles, c'est aussi venir figer quelque chose dans ce pays. Hein, c'est-à-dire, bah, le retour là va peut-être plus être possible en fait, maintenant qu'il y a un enfant. Hein, souvent, on entend ça en consultation, ce petit Français là, qui maintenant qui est là, qu'est-ce que, voilà. Du coup, peut-être ça va être aussi pour certaines familles une première rencontre avec les institutions aussi. Hein, jusque-là, peut-être pas. Et puis là, c'est l'arrivée du bébé qui fait que, bah, ok, il va falloir aller rencontrer le monde médical, il va falloir aller rencontrer la CAF, il va aller falloir, voilà, hein, tout un tas de choses qui, pour nous, nous paraissent totalement banales et ordinaires parce qu'on est dans ce système. Mais pour beaucoup de familles aussi, c'est quoi cette histoire de devoir être suivi autant, de devoir rendre des comptes, hein, des fois c'est pris comme ça aussi, hein, rendre des comptes aux institutions, mais de quoi ils se mêlent, c'est mon ventre, mon bébé, c'est pas. C'est pas possible de faire des échos, non, on regarde pas ce qui est caché. Voilà, hein, donc des fois, ça peut être vécu de manière très intrusive. Et c'est là où parfois, il y a des gros malentendus aussi culturels, parce que les pros peuvent se sentir ben, pas intégrés dans le parcours, dans l'accompagnement, peuvent s'inquiéter. Rien aussi parfois, hein, se dire oh là là, cette maman, elle n'investit pas son bébé parce qu'elle ne le regarde pas à l'écho. Ben oui, mais en fait, elle ne regarde pas l'écran parce que c'est pas possible, en fait, ce serait ne pas le protéger que de venir regarder, par exemple. Hein, voilà, plein de choses comme ça qui peuvent passer parfois un peu à côté si on va trop vite et qu'on ne prend pas le temps de se rencontrer vraiment. Donc oui, la question de l'exil et de pourquoi et comment, c'est essentiel sur ce que ça va raconter de ma capacité d'être là et de rencontrer cette culture d'accueil. Illustre bien aussi cette idée, oui, il y a un monde du dedans et un monde du dehors parfois. Et ça peut être, vous parliez de ces enfants, comment ils font ces enfants quand ils sont dans plusieurs cultures. Mais justement, tout le défi, ça va être de créer un pont, hein, entre ce monde du dedans et ce monde du dehors pour que justement, il y ait de la cohérence, hein, que l'enfant puisse trouver une cohérence. Et donc là, pour moi, c'est vraiment de vous intéresser. Et de montrer aux familles que vous êtes vraiment intéressés et que vous êtes. C'est pas de la curiosité malsaine. Souvent, les pros, ils me disent, bah oui, mais on va pas leur poser cette question quand même. Je dis, mais je sais pas. Est-ce que vous savez pourquoi vous leur poseriez cette question? Si déjà vous savez le but et l'objectif de la question, déjà, on est plus. Ça peut pas être intrusif, hein, de la même manière. Donc c'est s'autoriser aussi et oser mettre en valeur en fait les cultures familiales que vous accueillez, parce que. Elles sont riches et elles ont une place à prendre dans vos institutions et surtout, elles vont permettre, si vous voulez, ça, c'est un cercle vertueux en fait. Si l'enfant se sent valorisé, le parent se sent aussi. Si l'enfant prend sa place, ben, le parent aussi. Si le parent se sent valorisé, ben, l'enfant aussi, il va être plus tranquille accueilli. Enfin, voilà, c'est vraiment un cercle vertueux, hein. Donc, c'est aussi s'autoriser à être curieux et à demander aux familles comment elles font, pourquoi Ouais.
Et quand tu parles de faire un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur, parfois, en tout cas nous, c'est la pratique en espace de rencontre enfants-parents, c'est faire le pont entre deux mondes intérieurs. Quand les parents sont séparés, il y a un enfant qui appelle l'enfant avec un prénom et l'autre parent qui appelle l'enfant avec l'autre prénom. Et que de la même façon, on doit. Alors je vois Serge qui est là, mais de la même façon, on a à recoudre ça en utilisant les deux, non pas l'un ou l'autre, mais les deux.
Et là, c'est vraiment un travail d'interculturalité que vous faites, en fait, parce que
Oui,
vous
tout
êtes
à fait.
entre deux cultures familiales.
Oui, c'est pour ça que là, on a vraiment parlé de la culture, mais je me disais, finalement, tous les différents modes de famille dans lesquels on peut vivre aujourd'hui, ce sont des cultures aussi, au-delà des questions de migration et de langue. Aujourd'hui, on vit quand même dans une multiculturalité. Quand tu parlais, je me disais, bah, en fait, chaque modèle de famille, de couple, est un modèle culturel unique aujourd'hui.
Et j'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire que je dirais que de fait, au départ, on est issu d'un métissage. Voilà, et qu'en effet, cette question de l'interculturalité, et je l'ai un peu dit, mais il y a vraiment cette idée que oui, c'est la question de la rencontre, elle est tout le temps, partout, pour tout le monde, hein, et que oui, il y a des cultures familiales, quelles que soient les origines des parents. On rencontre une culture familiale. même si c'est mon voisin. Hein, voilà. Hein, et donc ce travail hein, qui nous est demandé quand même hein, d'avoir un regard sur soi aussi, sur ses propres appartenances, pour éviter aussi d'être trop hein, que ce soit notre culture professionnelle d'ailleurs, hein, notre culture d'origine, mais aussi notre culture professionnelle qui nous amène un filtre supplémentaire devant les yeux hein, quand même. Voilà, c'est intéressant de regarder tout ça. Et voilà, toujours penché sur voilà, les ressources de ses parents. Comment ils vont faire ça? Qu'est-ce qu'ils vont trouver pour que ça a créé du lien, que ça a créé de la cohésion dans leur famille? Voilà, malgré ben voilà, ces moments de vie très différents, ces expériences.
Merci Cynthia pour ces éclairages que tu nous as apportés, qui donnent envie de continuer. Moi, je pense à la musique aussi, à chanter ensemble, à tout ça. Merci, voilà, de ton partage.